Chapitre 52. Cette fois, le Rayok s'était arrêté sans que personne n'y ait touché. L'écran s'assombrit avant de s'éteindre définitivement. Le récit de Mina était terminé. Nanès détourna le regard vers les yeux de verre rangés sur la table de couturière, évitant de croiser ceux de Vicky et d'Eléa. Elle repensait aux jours qui avaient suivi le décès de sa belle-mère. Elle se souvenait des larmes de Renaud, de celles d'Axel et Robin, mais aussi de l'empressement de son mari. « Nous devons quitter la maison de Charleville », avait-il déclaré dès le lendemain de l'incinération. « Je dois trouver un autre travail. Axel et Robin doivent poursuivre leurs études ailleurs que dans cette ville. » Nanès avait interprété ce désir brutal de changement comme un besoin de faire le deuil, de rompre avec le passé, ou, si elle était vraiment honnête avec elle-même, n'avait rien analysé du tout et s'était simplement contentée de soutenir son mari dans cette passe difficile. Au fond, elle avait été plutôt contente de déménager, de quitter Charleville pour les Ardennes et leur petite maison de ville pour ce vaste pavillon de bourg fidèle. Elle était plutôt fière que Renaud pense enfin à sa carrière et postule à cet emploi d'ingénieur en Belgique. Elle avait juste regretté le départ trop brusque d'Axel et Robin, un programme Erasmus bouclé en quelques semaines, Budapest pour Axel et Almeria pour Robin. Aujourd'hui, Nanès comprenait. Renaud n'avait pas pu la quitter. Renaud avait désobéi, il n'avait pas suivi le plan de sa mère, il avait cru que déménager et changer de métier suffisait. Libor et ses fils avaient mis 5 ans, mais elle avait rattrapé et tué. Aujourd'hui, Nanès réalisait. Elle aussi portait sa part de responsabilité. Elle se souvenait de toutes ces fois où Renaud avait évoqué son envie de partir loin, dans le sud de la France, dans l'ouest, à l'étranger peut-être, et où elle lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas quitter l'est, s'éloigner de Charleville de plus de 50 kilomètres, qu'elle ne pourrait pas supporter de perdre le contact avec ses petits protégés. Mon Dieu, pourquoi Renaud ne lui avait-il pas tout expliqué? Elle l'aurait suivi au bout du monde si elle avait su qu'il était en danger. Nanès releva ses yeux enlarmés, fixant les visages floutés de Vicky et Eléa. Et elle, pensa-t-elle, que venait-elle faire dans cette histoire? Si Renaud n'avait pas obéi, s'il ne l'avait pas quittée pour endosser une autre identité, c'était pour une raison aussi cruelle que banale. Hans, Pierre et Renaud s'étaient déjà retrouvés depuis des années. Ils avaient même passé du bon temps tous les trois. Hans avec Vicky, dans sa ferme à rénover, profitant de grands espaces pour se ressourcer et d'une fillette qu'il appelait papa. Pierre avec Eléa, une fille tellement plus jeune que lui, tellement plus belle qu'elle, une fille qui devait le regarder avec ce désir brûlant que Nanès, malgré tout son amour, ne savait plus exprimer. Le plan de Milana était qu'une vie puisse remplacer l'autre, comme on possède 3 costumes, 3 paires de chaussures, en 4 coups durs. Mais comment résister à tous les essayer, à tous les porter? Une boule acide bloquait la gorge de Nanès. Elle baissa les yeux dès qu'elle sentit les regards de Vicky et Eléa sur elle. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas su le protéger. »« Vous n'avez rien à vous reprocher, » assura Vicky d'une voix charitable. « Votre mari vous aimait, jamais il n'aurait pu vous quitter. » Nanès grimaça. Renaud la quittait tout de même, 1 semaine par mois, pour se rendre chez cette femme qui se drapait dans sa bonne conscience. « Et je sais quand c'est vivant, » ajouta Vicky. Nanès faillit s'étrangler. Vivant. N'avait-elle rien écouté? Je le sais, poursuivit Vicky, parce que je ne veux pas croire que Lola puisse grandir sans son papa. Parce qu'il lui a promis de revenir réparer Casper, parce qu'il m'a promis à moi aussi de revenir. Et Kantz est quelqu'un qui tient ses promesses, parce que, tout simplement, je n'arrive pas à imaginer mon avenir sans lui. Mais enfin, cria presque Nanès, ouvrez les yeux, il est mort! Non, fit doucement une voix derrière elle. Eléa s'était approchée de la table de couturière et avait posé ses 2 mains sur une tête de marionnette en papier mâché. « Non, » répéta Eléa. « Si Pierre était mort, je le saurais. Je le sentirais. »« Tu parles, » objecta Brain. Du bout des doigts, Eléa arrachait des lambeaux de journaux collés sur le crâne verni. « Il y a des choses que la raison ne peut pas expliquer, » continua-t-elle. « Parfois, il ne faut pas écouter son cerveau et se fier uniquement à ses sensations. » Et elle me certifie que même si on me montrait le cadavre de Pierre, en me collant sous les yeux une enveloppe avec ses analyses ADN ou une radio de ses empreintes dentaires, je jurerais qu'il est encore vivant. Nanès chancela. Elle aurait tant aimé posséder cette folie en elle, pouvoir rompre avec la raison. Mais elle avait reconnu le corps de Renaud. La police avait procédé à son identification formelle, sans lui laisser le moindre espoir. Perdue, troublée, Elle n'aperçut pas Vicky s'avancer. « Je vais voir ce que fait Lola. » D'une main énergique, Vicky se tourna vers la poignée. Elle lui resta dans la main. « Merde ! La poignée était-elle cassée, dévissée ?» Vicky tenta nerveusement de la replacer, de faire tourner le pen, mais la serrure refusa de céder. Elle donna un coup d'épaule d'abord, puis un violent coup de pied. La porte de bois ne bougea pas. « Merde ! » répéta Vicky. « Ils nous ont retrouvés, » comprit immédiatement Nanès.
« Si tu m'avais écouté, » glissa Brain.
« Ta gueule !» hurla Eléa.